Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
PSGOM, OM, PSG, depuis une trentaine d'années, le classique du championnat de France, comme on l'a surnommé, peut-être maladroitement, a accouché de duels rugueux, acharnés, parfois somptueux, rarement anodins. Quel est le plus grand, celui qui nous a procuré le plus d'émotions? Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort? Et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand PSGOM de l'histoire. Pour m'accompagner, trois journalistes de la rédaction d'Eurosport, Maxime Dupuis, Laurent Vergne et Vincent Brégevin, et un invité de marque qui en a joué, lui, des classiques, Vikash Dorasso. Salut messieurs.
Salut.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel match avez-vous choisi de défendre, Laurent?
Le Marseille-PSG de mai 1989 au Vélodrome, avec la fameuse frappe de Franck Sauzet à la dernière minute.
Maxime?
29 mai 1993, la tête de Boli notamment, l'autre tête de Boli.
Trois jours après la finale, voilà. La victoire en Ligue des Champions. Et Vincent?
Alors moi j'ai choisi le match de mars 2003, le jour où Ronaldinho a dansé sur le Vélodrome.
Vikash, toi t'en as joué, je disais en introduction des classiques, t'en as joué combien exactement?
J'en ai joué alors deux en championnat et un en Coupe de France, et j'en ai raté un, donc celui des Minots.
En 2006
comment il s'appelle, Guy Lacombe m'avait écarté ce jour-là et j'étais en tribune.
Dommage. T'as quand même pu profiter de ce moment.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a.
Bah, il valait mieux être en tribune.
Ouais, c'est pas plus mal. Ouais.
Pour être honnête, je voulais pas être sur... parce que tu peux pas être gagnant sur ce genre de match.
Ouais,
exactement.
C'est vrai. Une finale de Coupe de France, on s'en rappelle. J'imagine que on t'en parle souvent. En plus, tu peux nous raconter, mais t'as mis un sacré but.
Ouais, c'était la première fois que les deux équipes s'affrontaient en finale de Coupe de France. Donc, c'est pour ça que c'est un peu historique. Et puis, parce qu'aussi, je marque un but. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je marque le deuxième but, mais à 2-0, pas le but de la victoire. Mais on considère que c'est le but de la victoire. Et que aussi, Bonaventure Kalou met un but de folie. Mais c'est le mien qu'on va retenir parce que c'est un peu étrange que je tire à ce moment du match et que je marque et que je donne la victoire à l'OM, au PSG.
Et on parlait du match des Minots, si je ne me trompe pas, c'était juste avant, c'était un mois et demi avant.
Ouais,
et
à peu donc, près, ouais.
C'était quoi le contexte de cette finale par rapport à ce match qu'il y avait eu avant, la saison des deux clubs? Tu peux nous rappeler un peu, tu te souviens à peu près le contexte de cette finale?
Nous, c'est une saison difficile, très difficile, puisque en fait, on démarre plutôt assez bien, et puis à la trêve, l'entraîneur change. Laurent Fournier est viré, ils prennent Guy Lacombe et finalement ça n'arrange pas les choses et on passe d'un truc un peu cool à un truc complètement hyper dur, hyper assez sévère. Donc voilà, et puis après avec quelques conflits, des problèmes aussi avec nos supporters, des tensions dans le vestiaire, mais ça arrive assez souvent au PSG. Voilà, on se retrouve quand même en finale avec un beau parcours, je trouve. Quand même, en battant Lyon, en battant Bordeaux, mine de rien, voilà, on se retrouve en finale contre Marseille, en ayant joué toutes les grosses équipes du championnat. Et donc, c'était un match important. Ils sont, je pense, un peu favoris, un peu plus forts que nous. Ils sont devant, ils ont eu peut-être plus de certitude. Voilà, on avait perdu chez eux, on avait perdu 1-0, c'était un peu injuste. Le match là-bas, si vous voulez que je vous le raconte, c'est assez particulier, c'est assez croustillant. Moi, je venais on venait de se qualifier avec la France pour la Coupe du Monde. Donc,
moi, c'était en 2005. Donc, ça, c'était 2005, ouais. Le match OM-PSG, le match aller.
On arrive là-bas et donc le vestiaire n'était pas On ne pouvait pas l'utiliser, il y avait eu de l'ammoniac dedans, bizarrement. Donc, on s'est retrouvé dans un vestiaire sous un des virages, mais on ne sait pas trop où on est. Et donc, il y avait beaucoup de passages. On s'est échauffé au tout début dans les couloirs avec les gens qui passaient. Et puis, donc on a, à un moment, il y a Kalou qui va au but sur une passe et Barthez le découpe. C'est une balle de 1 partout. Donc, on a bien joué, hein, je trouve. Hein, c'était difficile, l'OM, à l'époque, hein, d'aller jouer là-bas. L'ambiance était très forte. Et voilà, moi, c'était la première fois. Ce qui était marrant, c'est qu'après, il y avait Roche Dizem qui était avec nous dans le car. Et on s'est fait cartonner le car avec des cailloux. Et il y avait Roche Dizem qui se baissait en sans arrêt, en train de… Puis, il me regarde et il me dit, genre, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, bah, ouais, c'est normal, t'inquiète pas. Il va rien se passer, quoi. On est juste à Marseille, quoi. C'est pas grave.
Alors, je reviens sur ce match-là parce que c'est même Sana qui marque, il me semble. Et,
oui, au 79e sur corner.
Corner.
Ouais, pour le symbole. Alors, tu as raconté l'ammoniac. Moi, j'ai toujours entendu aussi qu'il y a une histoire avec Clara Morgan qui passe dans les vestiaires avant. Est-ce que c'est vrai, ça ?
C'est peut-être vrai. Je me souviens qu'il y avait Michael Liu aussi qui était dans les parages. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. On a essayé de se préparer, nous, du mieux possible. C'était un peu étrange, hein. C'était quand même très étrange, même.
Et bon. Tu parlais de l'ambiance du Vélodrome. C'était quoi les… Alors, tu n'as pas fait les Minots et puis c'était un peu particulier. Mais c'est les Marseille-PSG ou PSG-Marseille qui était le plus chaud en termes d'ambiance ?
Alors, pour le coup, le deuxième que je joue à domicile au Parc, alors, la petite anecdote, c'est mon dernier match professionnel. Je n'ai plus jamais rejoué au foot après. Donc, on a perdu 3-1 à domicile contre le Marseille de Nasri, de Ribéry, qui avait très bien joué, qui était plus fort que nous. Ouais. L'ambiance est plutôt assez calme. C'est un moment aussi, ils commençaient à essayer de nettoyer les tribunes, voilà, pour peut-être améliorer ce qui se passait. Il y avait un peu de violence.
Ah, c'était juste après la Coupe du Monde.
Oui, c'est ça, ouais, en
juste
septembre.
Après la Coupe du Monde, voilà, en septembre. Et c'est vrai qu'à Marseille, je me souviens. Alors, jouer à Marseille, c'est dur. Hein. Jouer au Vélodrome, l'ambiance, c'est chaud, quoi. Il faut y aller. Hein. C'est hyper hostile, hyper agressif, mais c'est hyper galvanisant en même temps, hein, c'est super. Hein. Mais voilà, un PSG-OM. Alors, moi, je ne sais pas, j'avais joué un Inter-Milan, enfin Milan-Inter, j'avais joué aussi un Saint-Etienne-Lyon. Je connaissais un peu les ambiances un peu chaudes.
Tu n'as pas été surpris du coup par l'accueil que tu as pu recevoir en tant que joueur du PSG du côté de Marseille. Et ce match au Stade de France, pour y revenir, là, pour le coup, il y a énormément de supporters des deux clubs. Comment toi t'as vécu ça, même j'imagine marqué, tu marquais pas énormément, hein, on va pas se cacher, là ça a été une délivrance, comment t'as vécu ce moment?
Ouais, c'était un moment incroyable, qui est un de mes plus grands souvenirs de footballeur. Je suis chanceux, je tire pas souvent, je tire une fois de très loin et ça va dans le but, et évidemment c'est la finale de Coupe de France. Ce qui est marrant, c'est qu'aussi c'est un match dur, moi j'ai beaucoup couru, il y avait Ribéry sur mon côté. Donc, il y avait aussi ce duel à l'approche de l'annonce de la sélection pour… alors, je sais pas, oui, il n'a toujours pas annoncé, je crois.
Non, je ne pense pas. Enfin, non, c'était au mois d'avril, je crois.
Là, et puis, il fallait défendre. Moi, je défendais, quoi. J'étais dans le couloir droit. Et puis, à la mi-temps, j'étais épuisé. Et je croise Jérôme Alonso et je lui dis, je suis KO, mec. Il me dit, mais non, mais tu vas marquer. Alors, pour me dire ça, il faut vraiment y croire.
C'est peut-être ce qui t'a libéré et qui t'a autorisé à prendre cette frappe de 35 mètres.
Un moment de folie, hein, j'ai ce souvenir de cette action sur la touche que Modeste Mbami récupère. Il me donne la balle et je suis dans mon camp et le football est quand même fabuleux. En 4 touches de balle, je me retrouve devant le but. Et là, au lieu de… Je vois Paoletta qui s'écarte avec Kalou et ils sont sûrs que je vais leur faire la passe, hein, comme d'habitude. Et là, je tire. Et là, il y a une vraie absence, quoi, un vrai truc, tu ne sais pas où t'es, quoi.
T'es un peu Thuram, là.
Ouais, il y a un truc comme ça où je perds un peu la boule, quoi, un peu la mémoire. C'est tant mieux, hein, il faut des moments de folie comme ça. Et on voit bien que sur le but, quand on voit les images, je marque avec un peu la colère aussi, un peu la haine. Ça, c'est des choses qui m'ont motivé parfois. Et comme ça ne se passait pas bien avec mon entraîneur, il y avait comme ça un sentiment de revanche. Voilà, donc j'étais content. Après, on a souffert parce que Maolida est revenu à 2-1. Ils ont quelques occasions. Je me rappelle de Bernard Mendy qui fait une faute dans la zone de réparation très limite. qui peut faire penalty. Voilà, c'était chaud. Hein. Ils avaient une belle équipe, hein. Mais on l'a gagné.
Je confirme, j'étais dans le virage sur le but où tu marques. Donc vraiment, j'étais aux premières loges. Je peux te confirmer que personne ne s'attendait à ce que tu frappes. Pareil, on voit Pauletta, on voit Kalou, et puis là, on voit la balle partir. Plus, elle était assez puissante. Tu n'étais pas réputé pour frapper de loin, pour frapper fort et tout. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête?
C'est un peu l'élément de déconnexion. En plus, c'est dur ce genre de frappe parce que c'est dans le mouvement, tu vois. Tu avances avec le ballon, donc c'est difficile d'armer dans ces moments-là. Alors, je suis petit, je peux armer plus vite. Et Barthez, évidemment, il ne s'y attendait pas, le gars. Donc,
il met un petit temps à partir. Et...
Ce qui est marrant aussi, c'est que, comme toi, tout le monde me dit qu'il était dans le stade. Hein. Tu vois,
J'étais dans le stade, j'étais en tribune de presse.
Moi, je n'étais pas là.
C'est comme Prince au Palace. Hein. Tout le monde l'a vu, l'a vu faire son dernier concert.
Là, je n'y étais pas.
Et même toi, Vikash, dans la rue, j'imagine que les gens te parlent principalement de ça, non?
Ouais, j'ai une chance sur deux pratiquement, même à Paris, où les gens me remercient, où les gens me disent « Ah ouais, on t'en a voulu quand t'as marqué ». Donc voilà, je joue au Paris Saint-Germain et j'ai tiré pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que c'est super parce que c'est un grand souvenir. Les gens qui ont, on va dire, 20 ans à peu près, ils se souviennent de moi, joueur de foot, et ils se souviennent de ce but.
C'est la force d'une finale, ça aussi. Et puis évidemment, d'une finale PSG-OM, c'est même assez dingue que ça a été la première entre ces deux clubs qui ont quand même vraiment marqué l'histoire de l'épreuve. Et en plus, je crois que c'était l'OM attendait un titre depuis 1993, ils n'avaient rien gagné depuis. Non. Donc, c'est une défaite qui a fait mal, je pense, à l'OM.
Ouais, j'espère. Et moi, j'ai tout gagné en France, il ne manquait plus que ça. Donc, j'étais content. Comme ça, j'avais fait le tour de...
Ton dernier trophée,
des trophées,
en tant que joueur.
Que tu as gagné en France en tant que joueur.
Un trophée que tu n'avais effectivement pas gagné. Si on remonte quelques années plus tôt, on peut parler d'un de vos choix, messieurs. Remontons aux origines, Laurent, 1989. On est dans les prémices des PSG-OM, parce que on le rappelle, hein, c'est une rivalité qui a été un petit peu montée par les médias pour un petit peu faire monter la sauce entre deux clubs et créer une rivalité. Et 89, alors il y a pas encore Canal+, t'as pas encore acheté le PSG, mais ça commence déjà. Il y a Tapie qui est à l'OM, et voilà, là il y a quelque chose qui arrive.
Oui, là, on est vraiment sur une rivalité purement sportive. Cette année-là, le PSG et l'OM se tirent la bourre pour le titre de champion. Paris, l'année précédente, avait vécu une saison cauchemardesque. Ils se sauvent un peu in extremis. Ils finissent 15e, je crois. Et pour la petite histoire, en 88, ils vont se sauver. Le match décisif de leur sauvetage, c'est au Vélodrome. Ils viennent gagner 2-1, alors que l'OM était vraiment bien meilleur cette année-là. Ils vont en demi-finale de la Coupe des Coupes. Ils étaient ambitieux. Et c'est Susic qui fait un match monumental. Donc, ils se sauvent. Et la saison suivante, avec Tomislav Ivic sur le banc du PSG, ils vont faire une très, très grosse saison, une équipe hyper rigoureuse, hyper organisée. Quelques techniciens, Gabi Calderon, Christian Pérez, mais globalement, c'est d'abord vraiment une équipe qui porte la patte de d'Ivic. Et à la 35e journée, l'OM reçoit le PSG au Vélodrome. C'est encore l'ancien Vélodrome, hein, celui d'avant la Coupe du Monde 98, qui était plus petit, mais qui était... peut-être encore plus chaud, même à mon avis. Et Paris vient de reprendre le leadership. Ils ont un point d'avance depuis. Ils ont repris la 34e journée. Et il y a donc ce match qui est vraiment... Alors, ce n'est pas le plus beau. C'est même un match que je ne vous conseille pas de le revoir si vous pouvez le trouver. Je crois qu'il est trouvable sur Internet. Il ne va rien se passer quasiment pendant 88-89 minutes. En revanche, je pense que ce n'est pas encore les deux très, très grosses armadas qu'on va connaître derrière. Parce que tu le disais, Adrien, ce n'est pas encore le PSG de Canal, ce n'est pas encore l'immense OM. L'OM va faire sa mue l'été suivant avec l'arrivée d'Amoros, de Carlos Moser, de Tigana, je crois aussi. Donc, ils vont vraiment faire un très, très gros recrutement de Francescoli. Là, tu as déjà Papin qui est là, tu as une grosse équipe. Il y a Karl-Heinz Forster, il y a Franck Sauzé. Mais ce n'est pas encore le très grand OM, ce n'est pas encore le grand PSG. Canal va racheter le PSG 2 ans après. Mais en revanche, je pense que cet OM-PSG-là, c'est un des plus importants. C'est un des plus décisifs, en tout cas, parce que, donc, voilà, pour raconter, il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce match. Il y a une occasion gigantesque pour le PSG à la 89e minute. C'est Amara Simba, je crois, qui se présente devant Gaëtan Huard. Un contre un, il perd son duel. S'il met ce but, c'est fini. Le PSG gagne et le PSG sera champion. Et quasiment dans la continuité de l'action, hein, sur la contre-attaque, Franck Sauzet qui va se retrouver avec le ballon. Alors les Marseillais vous diront qu'il était à 40 mètres du but. Il n'est pas aussi loin que ça, mais il est quand même très très loin. Et là, il met ce qu'on peut appeler une frappe à la Sauzet, hein, cette espèce de gigantesque mine qui fait mal rien qu'au bruit. Et puis moi, j'ai souvenir du ballon qui flotte un peu et qui part sur la gauche de Joël Batz. Batz qui se détend, mais elle est petite fille, elle est parfaite. Et voilà, c'est l'émotion derrière. On oublie qu'il ne s'est rien passé pendant 90 minutes. Et ce match va rester dans l'histoire des deux clubs et dans l'histoire du championnat, parce que rarement on a eu un but aussi important à une 35e journée comme ça entre ces deux clubs. Et l'OM va finir, donc reprend la tête. C'était la victoire à 3 points d'ailleurs, c'était la première année où la victoire à 3 points était instaurée. Ils vont repasser à la victoire à 2 points l'année d'après, avant qu'on revienne aux 3 points, je crois, à la fin des années 90 ou début des années 2000, je ne sais plus. Et donc l'OM va être champion et c'est le début de vraiment l'hégémonie marseillaise qui va durer jusqu'en 93.
C'est vrai qu'on en parle souvent de ces PSGOM qui ne sont pas décisifs dans l'histoire. Très peu. Celui-ci l'est. C'est un des premiers et il l'est.
Ouais, c'est même vraiment un des plus décisifs. Je suis pas sûr qu'il y ait un match, on va parler de celui de 93 après, mais même s'il est décisif, je pense qu'il y avait moins d'enjeux parce qu'il aurait fallu quand même une catastrophe pour que l'OM ne soit pas champion en 93 quand ils reçoivent le PSG. Ils avaient vraiment la main, quoi. Alors que là, ils étaient derrière, il y avait un point d'écart, tout était possible. Donc oui, c'était vraiment un match ultra, ultra important qui est à part, je pense, dans les confrontations entre les deux clubs.
Et pour dire quelque chose, la dimension un peu, j'allais dire, dramatique du match, et c'est la petite histoire qui est triste aujourd'hui, mais il y a une spectatrice qui était morte dans les tribunes, qui a fait
Ouais,
une
qui a fait
crise
une crise
cardiaque
cardiaque, ouais.
au moment du but de Sauzet. Tellement, alors bon, évidemment, elle devait sûrement avoir des fragilités, mais en tout cas, pour raconter un peu ce que ça donne. Et moi, l'image qui m'a marqué, tu parlais de Batz et de la frappe flottante, c'est qu'on voit que Batz, dès le début, il fait un petit pas à droite, il anticipe un tout petit peu que Sauzet va tirer pour les poteaux. En fait, elle part deuxième poteau, un peu externe. Et là, on voit qu'il manque à peine ça. Et c'est ce qui fait la différence entre cette équipe, qui était une équipe hérisson, celle d'Ivic, et qui avait tenu tout le match, qui avait endormi le match complètement. Et ça se joue vraiment à un cheveu. Le ballon passe dans le soupirail. Et Sauzet va indirectement déjà donner le titre à l'OM un peu plus tard.
Si on avance un peu dans les années, Maxime, tu voulais parler de 93. Je ne sais pas si on fait quand même une petite parenthèse sur 92, parce
Bah.
que 92, pour moi, je me demande si c'est pas là qu'est née la
Oui.
vraie rivalité entre les deux équipes. On rappelle le contexte, PSG, donc l'OM va s'imposer au Parc, un but de Boxiche à la 21e, décembre 92, et là, un record de fautes, une boucherie
C'est
totale.
55 fautes. C'est une boucherie totale. En fait, c'est le match qui démarre vraiment la vraie rivalité. On sait que cette rivalité, tu l'as dit tout à l'heure, c'est monté par les médias, mais c'est monté par Tapie qui se rend vite compte qu'il a besoin d'avoir quelqu'un en face, un adversaire qui représente quelque chose. Cet adversaire, ce sera le PSG de Canal+. Finalement, ça arrange tout le monde, parce que Canal+, c'est aussi diffuseur du championnat. Et en effet, c'est une boucherie absolue. Pour les plus jeunes, regardez les fautes pendant ce match. C'est complètement dingue. Il n'y a pas un carton rouge à la fin, il y a 55 fautes.
Surtout celle de
Aujourd'hui,
Dimeco.
il y aurait des cartons, je pense.
Ah ouais,
Il y aurait des
mais
rouges.
c'est incroyable comme match. Mais alors, moi j'aime bien le football un peu qui cartonne, mais là c'est vrai qu'on se dit on voit des tacles, c'est pas possible. Même les types, comment les types se relèvent pendant tout le match? Et c'est oui une véritable boucherie. C'est un but de Boxic qui donne la victoire à l'OM. Et il n'y a rien dans ce match-là sinon vraiment de la violence pure et dure pendant 90 minutes. Et ça faisait suite aussi, ça faisait écho au début de semaine, où la fameuse phrase d'Arthur Georges, on va leur marcher dessus. Voilà. Tapie s'est servi de ça, il a découpé, je crois que c'était dans l'équipe ou France Football, je ne sais plus. Il avait découpé ça, il avait mis ça dans les vestiaires, placardé ça, il a dit, voyez, ils vont nous marcher dessus, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et comme les Marseillais n'étaient pas des enfants de cœur derrière, bah, ils ont fait le reste sur le terrain.
Je crois que j'ai jamais vu un arbitre perdre autant les pédales, enfin si peu maîtriser les débats sur ce match-là avec Bernard Soult. Je me souviens qu'il était complètement dépassé par les événements. Il était incapable de tenir les deux équipes en respect, quoi, en fait. Donc c'est parti en vrille, vraiment.
Je sais pas, c'était à mon avis, c'était compliqué à tenir un match
Ouais.
comme ça.
Mais c'est ce qu'il dit. Alors j'ai lu une phrase de lui, quasiment 20 ans après, où il disait rien pouvait les calmer en fait. C'était voilà, dès le début, c'était parti, il n'y avait rien. Alors il a peut-être fallu cartonner un peu, mais normalement ce match-là, je pense que s'il cartonne, peut-être que ça calme un peu les gens. Mais sinon, ça ne se termine pas ce match-là, c'est pas possible. Il doit en sortir 6 au moins. C'est une boucherie de A à Z.
À la mi-temps, je regardais les extraits. Dimeco est à 5 fautes à la mi-temps. Je pense qu'il a dû finir
entre 5
et 10. Et c'est vrai que sur ce match-là, il est particulièrement remonté, Eric Dimeco. C'était une boucherie.
Et c'était pas juste, excuse-moi Adrien,
vas-y.
Pascal Biles qui joue ce jour-là. C'est pas ce jour-là où Tapie...
Je crois que c'est celui de 94 où il dit il passe pas. Je crois que c'est après celui-là, mais en tout cas, il y a ça. Ton tapis était tout le temps sur le banc aussi. Quand il n'était pas sur le banc, il avait son Toki Walki comme en finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est lui aussi qui a remonté les troupes et il avait une manière de faire assez musclé.
Même sur la. Quand il est.
Au parc, il était souvent sur le banc. Hein.
Ouais. Oui, et puis il était dans le vestiaire avant le match. C'est Franz Beckenbauer qui a confié au moment de sa disparition. Il a réagi dans l'équipe et il racontait. C'est les quelques mois qu'il avait vécu comme entraîneur de l'OM après la Coupe du Monde 90, et où il disait que c'était, il avait une forme d'admiration pour Tapie, mais qu'en tant que technicien, c'était impossible à gérer, puisqu'il disait, avant chaque match, il rentrait dans le vestiaire avant le match, il changeait toute la tactique. Il dit, c'était complètement dingue.
C'est ce que je ferais si j'étais président de club. Si c'était mon pognon, je t'annonce.
Tu choisis. Quand tu es un joueur de Paris ou de Marseille, Vikash, est-ce qu'on est imprégné de cette histoire entre les deux clubs? Est-ce qu'on te fait ressentir dans le club que par le passé, que c'est des matchs importants ou tu n'as pas besoin de ça?
Bon, j'ai pas besoin de ça déjà, mais comme c'est un peu fabriqué, un peu fake, on va dire, quand on arrive là, c'est difficile de alors, il faut un peu de temps. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à y croire à cette histoire, mais pour autant, quand le match arrive, on sent que c'est quand même un match particulier, notamment pour les supporters, et que notre saison n'était pas bonne. Par exemple, de gagner ce match contre l'OM, c'est évidemment sauver notre saison et donner quelque chose d'extraordinaire aux supporters. Mais c'est vrai que on arrive 10 ans, 15 ans après cette vraie rivalité là, qui était au sommet du championnat. Nous, quand on joue, Lyon maintenant est devenu la plus grande équipe du championnat. On est un duel mineur dans ce championnat, en fait, d'une certaine manière.
Alors que 93, c'est vraiment, je pense, le sommet de la... Alors, c'est peut-être pas le sommet sportif du PSG, mais l'OM est champion d'Europe et Paris a déjà une très grande équipe. Ils sont demi-finalistes de la Coupe UEFA. Là, on parle d'un sommet entre deux équipes de top niveau européen, ce qui sera assez rarement le cas par la suite.
Ouais, en 93, Marseille n'a pas besoin de battre le PSG pour sauver sa saison, parce que le 26 mai, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Et donc, Maxime, le 29 mai 93, Paris se présente au Vélodrome, 3 jours après ce succès, et l'OM va gagner malgré la fête continue pendant 3 jours.
En gros, pendant trois jours, ils n'ont pas dormi, ils ont fait la fête. 48 heures avant, ils sont sur la pelouse du Vélodrome le soir à faire les cons avec la Coupe d'Europe, mais c'est la fête absolue, évidemment. La France attendait une première Coupe d'Europe depuis 37 ans. L'OM, évidemment, de Tapie, depuis qu'il est arrivé en 86, attendait ça aussi. Donc, il y a ce match-là qui arrive 3 jours après, 29 mai 93. Symboliquement, c'est même 2 ans après la première finale perdue par l'OM contre l'Étoile Rouge. Et alors, on parlait tout à l'heure du match de 92, le match aller, qui est une véritable boucherie. Et bien, ce match-là, c'est quand même une petite boucherie aussi. Il faut voir les images parce qu'il y a des buts fantastiques. Il y a 4 buts pendant le match, mais il y a des tacles de Boucher-Charcutier. C'est quand même, dès le début, c'est très, très chaud. On sent que les Marseillais sont très contents d'avoir gagné la Ligue des Champions. Ils ont envie de montrer au Paris Saint-Germain qu'ils sont les patrons. Et des deux côtés, ça y va dans tous les sens. Les acteurs habituels, Colter, Dimeco, Boli, etc., ça charcle. Il y a même un tacle de Boucher, de Bokchik en deuxième mi-temps qui est complètement incroyable. Et il n'y aura qu'un carton rouge, on y reviendra, c'est Ricardo qui, pour le coup, lui, se faisait jamais expulser, était sûrement le défenseur le plus propre sur le terrain. Il a payé pour tout le monde. Donc voilà, ce match-là, il arrive donc 3 jours après. L'OM n'est pas encore champion de France. Il sera champion de France en battant le PSG. Et les Marseillais, donc on l'a dit, ne sont pas frais. Ils prennent un but dès la 8e minute par Guérin. Là, on se dit quand même, bon, ça pourrait plonger parce que c'est compliqué. Ils viennent de gagner la Coupe d'Europe. Ils n'ont pas dormi ou peu depuis 3 jours. 10 des 11 titulaires de la finale le sont contre le Paris Saint-Germain. Manque juste Angloma qui s'est fracturé le tibia contre l'AC Milan. Et comme tu l'as dit, Laurent, c'est ce vélodrome, l'ancien vélodrome, 40 000 places, bouillant possible. Il y a les Parisiens dans le parcage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce parcage qui était dans un virage en bas avec une espèce de cloche. Voilà. Et d'ailleurs, il jouera un rôle en deuxième mi-temps, ce parcage. Et puis finalement, il y a cette égalisation de Voleur au quart d'heure de jeu. Déjà, un but qui est plutôt pas mal en construction. Et évidemment, le but pour lequel on retient aussi ce match-là, c'est l'autre but de Boli, la tête de Boli, qui aurait pu être le but de l'année s'il n'y avait pas eu sa tête du mercredi contre l'AC Milan. Ce but-là, c'est évidemment exceptionnel. Ça part de Boli, déjà un coup de tête, il relance. Il va trouver Durand qui jongle, Durand qui enchaîne des jongles, ça, je ne sais pas si on l'a vu souvent, qui va donner à Boli, qui va remettre à Pelé, Pelé côté gauche, qui centre, et là, se passe quelque chose aussi. On parlait de la frappe de Vikash qui était irrationnelle. Alors, Boli, lui, marquait parfois des buts. Mais aller mettre une tête des 18 mètres, ça n'arrive pas tous les jours.
Il marquait sur corner.
Voilà. Et en fait, Boli, ce qu'il fait, tout simplement, ça fait suite à un petit accrochage qu'il y a eu un peu plus tôt avec Ricardo dans la surface de réparation. Boli racontera plus tard, en fait, il n'avait qu'une envie, c'est rentrer dans l'art de Ricardo. C'est pour ça, l'autre met le pied, lui, il va mettre la tête et il y va d'une puissance absolue. Il va mettre la tête sous la barre de Bernard Lama, qui était évidemment pas premier venu. Le but est exceptionnel. Suivent les larmes de Boli. Mmh. Voilà, on sent que tout explose à ce moment-là parce que, évidemment, la charge émotionnelle. Je pense que ce Marseille-PSG-là, au niveau de la charge symbolique émotionnelle, est sans commune mesure parce que déjà un club français qui gagne des champions et le héros qui va marquer le but de la victoire et qui est symboliquement le but décisif parce que c'est le but du 2-1. Alors en deuxième mi-temps, il y aura un but de Boxing.
C'est vrai que juste avant que tu finisses pour ce but et même j'aurais écouté sur internet le résumé du match, même dans les conditions du direct, toute la construction est belle et le commentateur dit les Brésiliens sont en blanc. Je trouvais ça fantastique. C'est fantastique. T'as ce côté, voilà, et comme tu as décrit magnifiquement bien cette conclusion et cette tête. Bon voilà, et tu vois Boli qui vient courir. Après le banc, enfin fantastique.
Et puis il y aura, là, je termine sur le deuxième mi-temps, qui est plus anecdotique. Il y a un troisième but qui est pas mal de Bokchik, mais il est plus anecdotique, mais ça commence à sentir un peu, j'allais dire, le pâté, parce que le parquage parisien commence à balancer des fumigènes sur la pelouse du Vélodrome. Je crois qu'il y a même un Projo qui pète aussi. C'est une spécialité au Vélodrome, c'est le Projo qui pète. Et puis voilà, ça se termine un peu. Il y a le carton rouge de Ricardo. Bon, la deuxième mi-temps est plus anecdotique, mais encore une fois, rien que pour le but et le symbole, parce que c'est encore une fois, en plus, c'est Pelé qui centre pour Boli trois jours après la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, au niveau de la charge émotionnelle, c'est difficile, je pense, de faire plus fort. Et puis l'OM qui est évidemment champion de France après ça, mais le titre sera retiré à cause de OM.
Dans tous les OM que vous citez, et moins le mien, il y avait quand même cette rivalité des supporters aussi. Ouais. Le stade qui est en fête, avec des tifos, avec des fumigènes, avec plein de choses comme ça. Puis des supporters qui se déplaçaient aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de les faire se déplacer. Enfin, voilà. Donc, il y a tout ça qui n'existe plus. Hein. Et puis, se mettre des coups sur un terrain de foot, je trouve ça formidable, moi. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas plus de blessés. Hein. Il n'y avait pas plus de… Je veux dire, a priori, on prenait des coups, on est protégés. Moi, j'en ai pris plein et tout va bien. Et mes potes aussi. Mais c'est un autre football, quoi, aujourd'hui.
Vas-y, Laurent.
Ouais, deux petites choses. D'abord, sur le côté des supporters. Moi, j'ai souvenir, j'étais au lycée à cette époque-là. Et… On parlait de la rivalité, PSG qui est racheté par Canal en 91. Et une chose qui avait vraiment changé entre 91 et 93 et qui était très révélatrice, c'est que moi, je me rappelle le moment de la finale de Barry. J'avais pas mal de potes qui étaient supporters du PSG. Il y en a qui commençaient déjà à détester l'OM, mais la plupart à Barry, la finale contre l'Étoile Rouge, ils étaient, je dirais pas qu'ils étaient à fond derrière l'OM, mais en tout cas, ils n'étaient pas à fond contre l'OM en souhaitant que l'Étoile Rouge soit championne d'Europe. Deux ans après, ça avait vraiment changé. Et moi, tous mes potes qui étaient supporters du PSG, ils étaient vraiment à fond pour l'AC Milan en finale à Munich parce qu'ils ne voulaient absolument pas que Marseille soit champion d'Europe. Donc, en deux ans, la bascule, elle s'était faite. Et après, sur le match, ce que tu disais, Maxime, l'ouverture du score de Guérin, c'est Bernard Tapie. Je n'étais pas toujours d'accord avec ce qu'avait dit Bernard Tapie, mais là, je pense qu'il avait vraiment complètement raison. Il dit, s'il ne marque pas les Parisiens en début de match, il dit ça fait 0-0 parce que nous, on est complètement cuits. Les mecs, ils n'y sont pas. Et en fait, c'est ce but qui va les sortir un peu de leur léthargie et qui va derrière, c'est une forme de relâchement. Ils sont crevés, mais en fait, tu ne réfléchis plus. Et je pense que Tapie a raison. Ce match qui est vraiment resté dans les annales de la rivalité entre l'OM et le PSG, peut-être qu'il serait beaucoup plus anecdotique si Vincent Guérin n'avait pas marqué et qu'il a un peu réveillé la bête quoi, avec ce but.
D'accord avec toi, Laurent. Si on se projette quelques années plus tard, on va faire un bond de 10 ans pour défendre ton choix, Vincent, 2003. C'est encore un match au Vélodrome. Décidément, les matchs marquants entre l'OM et le PSG sont souvent lieu au Vélodrome. Celui-ci, c'est une victoire du PSG, pour le coup, nette et sans bavure, 3-0, avec un dénommé Ronaldinho qui va faire un show mémorable.
Oui, c'est ça. Laurent parlait tout à l'heure de la victoire du PSG à Marseille en 88. Bah, c'est tout simplement la dernière victoire du PSG au Vélodrome avant ce match-là. Donc, elle est en mars 2003. Alors, pour replanter un petit peu le contexte, il n'y a pas un énorme enjeu sportif pour Paris, évidemment, mais il y en a un énorme pour l'OM qui est deuxième au classement et qui est dans la course au titre, vraiment. Donc, il commence une grosse ambiance, évidemment, grosses attentes au Vélodrome, parce qu'il y a cette deuxième place à défendre, parce qu'il y a une première place à aller chercher, parce que c'est le PSG, parce qu'il y a eu le match aller où Luis Fernandez s'est permis de danser, Paris a gagné 3-0, donc il y a une revanche à prendre. Ronaldinho avait déjà été brillant, et il se trouve que c'est la saison post-mondiale de Ronaldinho, il y a quelques faits marquants, là, deux ou trois semaines plus tôt, il met un but de folie contre Guingamp. Mais globalement, ça ne se passe pas très, très bien, quoi. Sorti de ce match aller où il a bien brillé, on parle plutôt de ses embrouilles avec Luis Fernandez, du fait qu'il est souvent sur le banc, etc. Mais bon, c'est un homme de grand match et puis il va le montrer ce soir-là. Alors, sa première mi-temps n'est pas dingue. Enfin, il met quand même, je crois, deux galettes à Ogbesh qui rappe de face à face, face à Rougneux. Donc, bon, mais sinon, c'est surtout en deuxième période qu'on va voir le show. Déjà, il y a le premier but. Donc, Paris mène déjà 1-0. Hein. Jérôme Leroy a ouvert le score en première période. Et sur ce deuxième but, donc, il y a une transversale de Franck Leboeuf qui est interceptée par Ronaldinho. Alors là, déjà, il y a le talent, c'est-à-dire qu'il remonte à une vitesse folle. Vraiment, la conduite de balle exceptionnelle jusqu'au but de Rougneux, avec précision, dosage dans sa façon dont il pousse le ballon. Et l'avant-dernière touche, qui est assez exceptionnel parce qu'il la pousse juste assez pour éviter le retour de Leboeuf, mais en même temps pour arriver juste avant Rougneux. Et là, ballon piqué au fond des filets. Donc, le but du break est déjà magnifique. Mais évidemment, il y a ce troisième but juste derrière qui fait pour moi que ce Marseille-PSG-là est mémorable parce que bon, le but, c'est une contre-attaque. Il est lancé sur le côté droit. Il résiste une première fois à Mdani. Il arrive dans la surface, il crochette Rougneux. Et là, c'est la magie. C'est-à-dire que Mdani revient pour contrer le tir, sauf que tout le monde attend le tir, mais Ronaldinho ne frappe pas. Il fait une feinte, Mdani est complètement dans le vent, et là, il y a tout le relâchement, toute la décontraction. Il pousse la balle vers le deuxième poteau. Je pense qu'elle rentre, pas sûr, peut-être qu'elle prend le poteau. En tous les cas, c'est Jérôme Leroy qui la pousse au fond. Mais il y a le geste de Ronaldinho qu'on retient. Et là, ce qui se passe, c'est ça qui est très marquant, c'est qu'il y a une forme d'admiration dans le Vélodrome. Pour la première fois, il y a un joueur du PSG qui, pendant quelques minutes, il y a des applaudissements. Il y a Ronaldinho, en fait, a le Vélodrome à ses pieds pendant quelques instants. C'est une impression unique. Aucun joueur de Paris, évidemment, n'a reçu tel hommage, entre guillemets, du Vélodrome dans l'histoire. Hein. Et c'est vraiment une première. Ce qui en dit déjà assez long sur le joueur qui était Ronaldinho, qui était un dribbleur exceptionnel, hein, qui réussissait des dribbles à rendre fou, mais qui n'était pas dans la provoque, qui avait le sourire, qui avait ce style en fait, qui faisait qu'il était aimé par tout le monde, populaire auprès de tout le monde, au point, en portant le maillot du PSG, de recevoir cette forme d'hommage au Vélodrome à Marseille, chez le rival. Et en fait, c'est le symbole de quand la rivalité, même la haine qu'il pouvait y avoir entre les deux équipes, on parlait de 92 tout à l'heure, c'était le début d'une haine, hein, vraiment, s'efface en fait devant le talent, devant la classe d'un joueur, la classe du génie qui était Ronaldinho. Et pour en reparler, ce qui est Ronaldinho avec le FC Barcelone a aussi été applaudi par le stade Santiago Bernabéu après une véritable démonstration avec le Barça. Donc ça paraîtra jamais sur son palmarès, mais il a quand même reçu quelques applaudissements du Vélodrome et ceux du Santiago Bernabéu en portant le maillot du Rivaloni. Donc, voilà, moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est vraiment le talent individuel qui efface, entre guillemets, une rivalité, le temps d'un coup de génie.
Tu n'as pas été applaudi, toi, Vikash, par les supporters de Saint-Etienne ou de l'Inter?
Il y a des joueurs comme ça qui sont capables d'arrêter le temps, en fait. Il y a Ronaldo qui l'a fait à la Juve avec ce retourné acrobatique, et puis il y en a d'autres qui l'ont fait dans l'histoire. Ça doit être un des moments assez magiques, quoi. C'est fou, hein, d'être applaudi chez le rival.
Et si je ne me trompe pas, ce match-là, à la fin, quand Marseille est mené, que les supporters comprennent qu'ils ne vont plus revenir, il y a un des deux virages qui se retourne complètement, met la sono à fond. Et en fait, ils écoutent la musique. Et je me souviens qu'ils mettaient, je crois qu'il y avait la musique d'Arnold et Willy notamment. Et je pense que c'est comme ça. Ça donne une image de fin de match complètement improbable parce que bah, les supporters ont compris qu'ils vont le perdre pour la première fois depuis 15 ans. Ils écoutent de la musique pendant que ça continue sur le terrain.
Ouais, puis c'est l'ascenseur. Ils ne s'y attendaient pas du tout parce que, comme je disais, Paris était en difficulté. Enfin, le résultat est totalement improbable en fait sur ce match-là. Clairement, que la série de victoires du vélo d'invincibilité de Marseille au Vélodrome face au PSG prenne fin sur ce match-là. Même s'il y avait Ronaldinho en face, c'était complètement improbable. Mais il y a une ambiance de feu au Vélodrome avant. Ils sont vraiment à fond. Ils ont une chance de remporter le titre. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été sacrés. Et c'est vrai que tu passes du tout au tout. Et je pense qu'aussi, ce qui explique pourquoi sur la fin, il y a cette réaction-là.
Et c'est marrant que tu dis ça, parce que pour l'anecdote, je faisais un de mes premiers papiers dans une rédaction et c'était en avant-match et j'avais voulu faire un truc sur le fait que le Vélodrome était une forteresse imprenable pour le PSG. Donc, tu vois, déjà le flair.
Ronaldinho, il avait envie de jouer ce jour-là. Ouais, c'est ce qu'il voilà. avait dit à Luis Fernandez le matin. Je crois que c'est Fernandez, ouais. d'ailleurs, qui l'a raconté ça. Ils sont le dimanche matin, je ne sais plus s'ils avaient fêté les foot ou quoi, mais ils se baladent sur la plage tous les deux et Ronaldinho qui lui dit... Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai envie de jouer, je vais te faire gagner le soir. Et c'est ce que tu dis, Vincent, c'est vrai que finalement, c'est Jérôme Leroy qui fait un doublé ce jour-là, mais presque ouais. tout le monde l'a oublié. Et l'action qui, moi, me reste le plus en mémoire, c'est effectivement pas le but de Ronaldinho, qui est déjà magnifique, mais c'est vraiment précisément ce dont tu parlais, le relâchement là, sur cette offrande, sur le troisième but. Il y a un peu de la passe de Pelé pour Carlos Alberto contre l'Italie en 70, il y a un petit peu de ça, donc je trouve que c'est l'artiste, quoi. On s'incline devant l'artiste presque autant que devant le joueur.
Pour boucler la boucle, on a eu une course relâchée de Ronaldinho vers le but, on a eu ta course relâchée vers le but aussi sur ta frappe, c'est un peu la même chose.
Ouais, je crois que Ronaldinho, il s'en moquait du Paris Saint-Germain, il était de passage. Il y a aussi un truc, c'est pour ça qu'il était si relâché. il savait qu'il allait partir, hein, il n'allait pas faire de vieux os.
Merci en tout cas, Vikash, d'avoir participé à ce podcast. Ça fait toujours plaisir d'avoir les réactions d'un ancien joueur qui a participé en plus à des matchs. J'espère que tu as pris plaisir à venir compter tes exploits passés. Merci Laurent, merci avec Vincent toi. Et merci Maxime.
Allez, Milette, hein.
À bientôt, merci.
Salut.
Salut. Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.